en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Lucrèce la Chenardière.
Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du monde.
Josh fit the battle of Jericho, Jericho,
oh, yes.
Jericho.
Oh, man,
Josh fit the battle of Jericho, and walls come a tumbling down. Josh fit the battle of Jericho, Jericho,
yes.
Jericho.
Oh, man,
Josh fit the battle of Jericho, and the walls come a tumbling down.
Good morning, brother pilgrim. Pray tell me where you bound. Oh, tell me where you traveling to.
On this enchanted ground.
My name it is Bold Pilgrim. To Canaan I am bound. Traveling through this wilderness
on this enchanted ground.
That morning
Josh fit the battle of Jericho, Jericho,
oh, yes.
Jericho.
Oh, glad
Josh fit the battle of Jericho, Jericho, and the walls come a-tumbling down.
That morning
Josh fit the battle of Jericho, Jericho,
oh, yes.
Jericho.
Oh,
Josh fit the battle of Jericho, and the walls come a-tumbling down.
You may talk about the king of Gideon, you may talk about the man of Saul. There's none like good old Joshua
at the battle of Jericho.
Up to the wall of Jericho, he marched with spear in hand. Go below them, ram on a Joshua cry.
How's the battle lamb in my hand?
Then the lamb ram sheep horn began to blow, trumpet began to sound. Joshua commanded the children to shout,
and the walls come a tumbling down.
That morning,
Joshua fit the battle of Jericho, Jericho,
oh, yes.
Jericho.
Oh,
Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come a tumbling down.
That morning,
Joshua fit the battle of Jericho, Jericho,
oh, yes.
Jericho.
Oh, glad
Joshua fit the battle of Jericho.
And the walls come tumbling down.
Pour cette dernière émission du cycle, je suis heureuse de recevoir Jean-Pierre Castellani, professeur émérite de l'Université François Rabelais de Tours. Jean-Pierre Castellani, bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous allons parler essentiellement des traductions. Avant d'être elle-même traduite, Marguerite Yourcenar a été une traductrice accomplie. Elle laisse une œuvre de traductrice importante. Pourtant, Jean-Pierre Castellani, bon, pardonnez-moi d'être un peu terre à terre, mais si Marguerite Yourcenar a été traductrice, il semble bien que ce soit par nécessité plus que par vocation, du moins dans un premier temps. Les traductions, en effet, pour l'essentiel, ont été faites avant le prix Femina Vaccaresco en 1952, c'est-à-dire avant le succès des Mémoires d'Adrien, avant donc que ses propres œuvres la nourrissent, si je puis dire. Jean-Pierre Castellani.
Oui, la question des traductions de Yourcenar traductrice, je crois qu'il faut l'associer d'abord au rapport complexe de Yourcenar avec les langues. Parce que la traduction, c'est le transfert d'une langue à une autre. D'abord, Yourcenar n'a pas de langue maternelle, puisqu'elle n'a pas connu sa mère. Elle a été élevée dans un cocon familial étrange. Elle n'a jamais été à l'école. Elle n'a pas connu la langue de l'école. Et elle a vécu la plus grande partie de sa vie, depuis 1939 jusqu'à 1987, essentiellement aux États-Unis et dans une petite île. Donc un rapport aux langues assez étrange. Donc pour comprendre son travail de traductrice, je crois qu'il faut d'abord comprendre qu'elle a été associée à plusieurs langues, pas une seule, dès le départ, par l'éducation que lui a donnée son père. Hein. Donc des voyages incessants dans l'Europe des années 20. Et là, elle a connu plusieurs langues vivantes, mortes, et elle les a appréciées. Elle a habitué son oreille à d'autres langues, à ce métissage des langues. Et elle a donc appris le français, bien sûr. Elle a écrit toute son œuvre en français, mais elle n'a pratiquement pas vécu en France, de façon permanente, en tous les cas. Donc c'est vrai qu'elle a un rapport avec les langues un peu curieux. Et dans un premier temps, elle a eu une activité de traductrice alimentaire, comme vous dites. Et elle a été amenée à lire beaucoup de textes étrangers, d'abord pour gagner sa vie, de même qu'elle a été enseignante dans les années 40 aux États-Unis. Ensuite, elle a lu par curiosité intellectuelle, énormément en langue étrangère. Et enfin, comme elle a été traduite elle-même, elle a voulu contrôler ses propres traductions. Donc, à cela, il faut ajouter aussi le rôle essentiel quand même à ses côtés qu'a joué sa compagne, la personne qui l'a accompagnée le plus dans la vie, qui est Grace Frick, qui était traductrice également, américaine, qui l'a amenée aux États-Unis en 1937, puis l'a accueillie aux États-Unis et a vécu avec elle de 1937 à 1979, hein, en petite plaisance essentiellement, et qui était traductrice et qui l'a aidée dans ce travail. Donc quand on regarde l'œuvre, si je puis dire, de Yourcenar comme traductrice, on s'aperçoit qu'elle est, elle est variée, elle est ample. Il y a, à ma connaissance, parce que ce n'est pas facile toujours de comptabiliser, il y a 11 textes traduits, hein, essentiellement.
Et c'est important.
Presque autant que les textes fictifs.
Oui. Hein.
C'est important. Donc c'est une certaine ampleur, une grande diversité. Et en plus, la plupart de ces textes, c'est très significatif, sont accompagnés de paratextes, d'introductions, de préfaces, dans lesquelles Yourcenar oriente, explique, exerce ce qu'on appelle en littérature son droit d'autorité, hein, comme elle le fera d'ailleurs pour les textes fictifs. Donc c'est vrai, vous avez raison, il y a une première partie qu'on peut qualifier d'alimentaire, mais une deuxième partie, dès les années 58, hein, dès la publication des textes de poèmes de Constantin Cavafy, il y a un travail de traductrice écrivaine.
Marguerite Yourcenar a traduit Virginia Woolf et Henry James. Avait-elle un lien particulier avec ses auteurs ou avec leurs œuvres? Est-ce que c'était des œuvres qu'elle aimait particulièrement?
Oui, certes, mais là, on est vraiment dans le travail alimentaire.
Oui.
Ce sont les
oui.
deux premiers, oui. hein, les vagues de Woolf, c'est en 1937, oui. et ce que savait Maisy, c'est en 1947. Donc là, on est dans le travail alimentaire, c'est des travaux de commande, mais déjà, on aperçoit dès le départ, chez Yourcenar, la volonté d'expliquer, et c'est vrai que elle a demandé, alors qu'elle était toute jeune, à rencontrer Virginia Woolf, qu'elle a rencontrée. Et elle a raconté plus tard, Virginia Woolf aussi dans son journal l'a fait, elle a raconté ces deux heures d'entretien où toute jeune, très, très intimidée, elle a rencontré sa traductrice, d'autant plus qu'il y avait une traduction en parallèle. Elle a dit toute l'admiration qu'elle avait éprouvée pour Virginia Woolf. Et dans la préface postérieure de 1989, elle donne des informations sur sa conception de la traduction. Elle n'est pas seulement traductrice, mais introductrice, comme elle dit, de l'œuvre de Woolf. Donc là, elle a fait un acte de commercial, elle avait besoin de gagner sa vie, mais un acte aussi de reconnaissance de qualité, d'un modèle, enfin un petit peu, c'était une femme, enfin bon, et d'interprétation de l'œuvre. Donc elle le dit elle-même, j'ai eu le plaisir de rencontrer l'auteur. Donc là, manifestement, il y a eu une rencontre commerciale, mais aussi une rencontre d'amour. Enfin. Et par ailleurs, quand on regarde bien les textes de Woolf, Les Vagues, on trouve un des grands thèmes de Yourcenar, qui est la mer, un des premiers textes s'appelait Remous, hein, l'ébauche de ces textes s'appelle Remous, donc la mer, les vagues vont jusqu'à Nathanaël, hein, jusqu'à un homme obscur, vont traverser toute l'œuvre de Yourcenar. Et donc on peut dire que déjà dans la traduction de Woolf, il y a la manifestation d'un goût de thématique.
Avec Constantin Cavafy, il semble que nous soyons alors dans l'admiration absolue. Marguerite Yourcenar commence en effet sa préface ainsi, je cite, « Cavafy est l'un des poètes les plus célèbres de la Grèce moderne. C'est aussi l'un des plus grands, le plus subtil, en tout cas le plus neuf peut-être, le plus nourri pourtant de l'inépuisable substance du passé. » Que de superlatifs. Je ne sais pas si ce travail était alimentaire pour Yourcenar, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a abordé la traduction des poèmes de Cavafy avec enthousiasme.
Oh, sûrement. Non, ce n'est plus alimentaire en 58. Là,
oui,
51, la publication de Mémoire d'Adrien a assuré jusqu'à la fin de ses jours l'alimentation de Madame Yourcenar, alors qu'il ne faut pas oublier que quand elle arrive aux États-Unis en 1939, quand elle fuit l'Europe, occupée, elle doit enseigner, ce qui l'ennuie énormément, hein, pendant plus de 8 ans ou 9 ans à New York, et l'enseignement ne lui a laissé aucune trace en elle. Hein. En revanche, dès les années 37, elle va souvent en Grèce, elle adore la Grèce, hein, et elle connaît les poèmes de Constantin Cavafy à Athènes en 36, en 37, et elle connaît l'érudit grec Constantin Dimaras qui va l'aider à traduire. Donc là, vraiment, c'est un écrivain déjà reconnu quand même, hein, qui traduit un autre écrivain reconnu aussi. Donc là, il y a vraiment une osmose, une amitié, un goût. Alors, elle ne connaissait pas le grec moderne. Les puristes traducteurs, quand ils passent au peigne fin les traductions de Yourcenar, aboutissent tous à la conclusion qu'elle n'est pas bonne traductrice, parce qu'elle n'est pas une traductrice professionnelle, universitaire, classique. Bien qu'elle fût aidée par Constantin d'Imaras, elle ne connaissait pas le grec moderne. Donc elle fait une traduction très personnelle, interprétative, subjective. Et là, on est en plein dans la reconnaissance de texte. Tous les thèmes de Constantin Cavafy lui plaisent, le personnage lui plaît.
Et pourquoi le personnage lui plaît ? Quel est ce personnage ? On peut peut-être en parler un petit peu.
Oui, toute la thématique ambiguë, la thématique bisexuelle, enfin, la thématique par rapport à la mort. Enfin, bon, là, elle retrouve dans les poèmes de Cavafy beaucoup de choses qu'elle a en elle-même. De même que plus tard, avec La couronne et la lyre, présentation critique d'un choix de poèmes grecs, de poètes grecs, en 79, elle va également, là, affirmer des choix. Donc c'est une anthologie, donc elle ne traduit pas un seul poète, elle fait une anthologie, donc c'est une sélection personnelle. D'ailleurs, on peut remarquer que dans les deux cas, elle intitule ses œuvres « Présentation critique ». Donc ce n'est pas seulement une traduction, c'est un choix qui manifeste ses goûts. Pas seulement quelqu'un qui traduit pour une maison d'édition l'ensemble d'une œuvre, quelqu'un qui choisit et qui commente. Et donc elle va sans arrêt dire pourquoi elle traduit. Pas dire comment elle traduit, mais pourquoi elle traduit.
Malgré quelques craquements de cet enregistrement des Spirituals par Paul Robson datant de 1940, cette belle interprétation n'est-elle pas une bonne introduction ? Jean-Pierre Castellani a l'évocation des traductions des Spirituals par Marguerite Yourcenar qui ont été, ça a été un travail très important pour elle.
Oh, sûrement. Justement, la connaissance des Negro Spirituals, c'est-à-dire des chants des Noirs américains, elle commence à la construire dans son premier voyage aux États-Unis en 1937 avec Grace Frick. Elle connaît Grace Frick en Europe et elle fait un voyage d'amoureux en Amérique.
D'amoureuse.
Et amour qui va durer jusqu'à la fin. Elle va soigner Grace Frick en 1979 avec beaucoup de patience, même si elle était énervée par le fait qu'elle soit bloquée. parce qu'elle restait à côté de son amie. Mais donc, dans les années 37, elle découvre les États-Unis, alors qu'elle connaissait l'Europe, essentiellement, l'Europe classique, gréco-romaine. Et là, elle va découvrir un pays essentiellement marqué par cette culture noire. Et elle va traduire donc « Fleuve profond, sombre rivière », qu'elle va publier en 64, avec une très longue introduction, qui est un véritable livre sur l'histoire de ces Noirs américains. Et dans cette logique qui l'accompagne tout le temps, on peut aller jusqu'au Gospels de 84, parce que l'avant-dernière traduction, enfin, en tous les cas, de sa vie, hein, de son vivant, c'est Blues et Gospels, qu'elle publie et présente en 84. Donc là, il y a une cohérence, hein, entre 64 et 84, entre Fleuve profond, sombre rivière et blues et gospels. Alors, ce qui l'avait intéressé, parce qu'elle n'était pas très musicienne, Yourcenar, ce qui l'avait intéressé essentiellement, ce sont deux thèmes. C'est le thème de l'exil, parce qu'elle-même était exilée, surtout à partir de 39, en 37 non, mais en 39 elle l'est. Et là, elle va connaître, même si elle ne reconnaît pas l'étiquette d'exilée, hein, on en reparlera plus tard, parce qu'elle se sent plus universelle qu'exilée, mais elle va donc connaître une situation physique et morale, financière d'exilée. Donc elle va épouser forcément la condition des Noirs américains qui viennent tous, bien entendu, d'Afrique, hein, et en partie d'Afrique. Et donc elle va avoir une sorte de solidarité d'exilée, et surtout elle va solidariser du point de vue de la liberté, du point de vue de l'engagement. Yourcenar n'a jamais été quelqu'un d'engagé au sens empathie, aux souffrances, à la condition d'esclaves ou d'esclavagisme des Noirs américains. Et la traduction des Negro Spirituals, ce n'est pas seulement un acte de traduction, et comme elle le dit dans son introduction très longuement, c'est un acte de solidarité, de faire connaître ces poèmes, cette poésie, ces gens, ces peuples, à ses lecteurs. Donc là on n'est plus dans la traduction commerciale du tout, même si elle le fait, bien sûr, pour gagner sa vie, parce qu'elle n'a jamais exercé de métier, sauf quelques années d'enseignante vacataire aux États-Unis. Donc là, elle le fait essentiellement par une communion avec les peuples opprimés. Elle va longuement expliquer comment elle a traduit ces textes. Là aussi, elle n'était pas spécialiste américain, hein, donc elle connaissait mal l'anglo-américain. Grace Frick l'aidait, elle parlait assez mal américain d'ailleurs. Quand Yourcenar parle anglais ou anglo-américain, moi je la comprends, ce qu'il faut bien qu'elle parle mal. Bon, avec Pivot, voilà, prononcer quelques mots en américain, c'est une catastrophe. Donc elle connaissait l'américain de façon scientifique. Donc là, elle a expliqué dans les entretiens importants avec Mathieu Gallet, dans les yeux ouverts, elle a expliqué longuement tout ce qu'elle avait voulu faire avec les poèmes des Negro Spirituals, les textes. Parce que ce sont les textes qui l'intéressent peut-être plus que les musiques. Hein. Elle dit elle-même, d'ailleurs, dans l'introduction longue de 64, elle dit « Il fallait trouver une langue populaire qui n'était ni le limousin, ni le flamand, ni le normand, ou le provençal, ou le breton, mais qui donna l'impression d'être immédiatement sortie du peuple. Quelque chose de l'entrain de la poésie à l'état d'enfance. Voilà ce qu'il me fallait trouver. » Donc là, elle montre bien, c'est son souci de trouver une langue populaire. Hein. Et elle reconnaît ses limites. Puisqu'elle dit à la fin, dans la même déclaration, il faut accepter que le gris se substitue à l'éclatant. Hein, très belle définition des limites humbles de la traduction. Et c'est dans les mêmes entretiens avec Mathieu Gallet, dans Les Yeux Ouverts, qu'elle revient longuement à la demande de Mathieu Gallet sur la traduction des poèmes de Fleuve profond, Sombre rivière. Et c'est là qu'elle donne des images intéressantes. Elle dit par exemple que quand elle traduisait ses textes, elle se sentait comme un voyageur devant une valise. Bon, je la cite de mémoire. Elle dit « Quand je traduis ces textes, j'étais comme un voyageur devant sa valise qui met un objet, qui l'enlève, qui en remet un autre, qui le remet, qui place un autre objet, qui ne sait pas exactement ce qu'il va mettre et qui croit qu'il peut s'en passer, qui ne s'en passe pas. » Et elle finit encore une fois très humblement. « En vérité, il y a toujours des choses que la traduction ne laisse pas transparaître, alors que l'art du traducteur serait de ne rien laisser perdre. On n'est donc jamais réellement satisfait. » Donc elle est humble, même si elle veut orienter les traductions. Et c'est vrai que le travail énorme qu'elle a pratiquée avec les traductions des Negro Spirituals a été un travail donc de réflexion sur la langue, de traduction et un engagement au fond politique, au fond idéologique, d'aide au peuple opprimé, même si on ne peut pas dire que Yourcenar a signé 1000 manifestes et s'est engagé de façon spectaculaire, mais quand même elle s'engage dans sa pratique, en tout cas dans le choix des textes qu'elle traduit, donc un engagement plus intellectuel que médiatique.
Mais Marguerite Yourcenar, bien sûr, a été aussi traduite. Est-ce que son expérience de traductrice ne l'a pas rendue très exigeante vis-à-vis de ses traducteurs, puisque c'est un sujet sur lequel elle avait réfléchi, qu'elle avait une conception de la traduction? La tâche pour ses traducteurs ne devait pas être très aisée, Jean-Pierre Castellani.
Sûrement pas.
Oui.
D'abord, Yourcenar a réfléchi à tout ce qu'elle faisait. Elle a tout construit. Son métier d'écrivain, sa vie personnelle, son œuvre, l'œuvre posthume, sa postérité, elle a tout construit de façon systématique, entêtée, procédurière, enfin bon.
Elle ne voulait rien laisser au hasard.
Elle n'a rien laissé au hasard, ce qu'elle appelait le carambolage des hasards, elle n'a rien laissé au hasard, elle a tout voulu contrôler jusqu'à sa mort, jusqu'à la gestion de son œuvre, de sa correspondance, elle a tout contrôlé. Alors, bien entendu qu'elle a été traduite, en particulier Mémoire d'Adrien, qui est un immense succès, en 1951, même les précédents, Alexis avant la guerre, mais Mémoire d'Adrien, 51, est un succès énorme en France. Et donc, il est immédiatement traduit. C'est un texte qui est traduit dès 53 en Italie, en Argentine. C'est Cortázar, Julio Cortázar, qui traduit Mémoire d'Adrien, quand même, ce n'est pas rien. C'est un des plus grands écrivains qui, lui, à l'époque, crevait de faim à Paris, et traduit Yourcenar pour vivre, mais il l'a traduit très bien. Donc, avec Cortázar, n'a pas eu de relation. Mais donc, tous ces textes ont été traduits, tous, pratiquement tous, dans la plupart des langues mondiales. Et donc, il s'est posé tout de suite le problème du contrôle de ces traductions. Donc, quand elle connaissait les langues dites latines, elle a contrôlé. Quand elle ne connaissait pas, elle ne pouvait pas contrôler. Ça, elle était très chagrinée, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, on a plusieurs témoignages hein, de ses rapports avec ses traducteurs, de même qu'on a des témoignages de ses rapports avec les metteurs en scène de ses œuvres de théâtre ou ses éditeurs. Donc les rapports avec les autres qui s'occupent de son œuvre à différents titres, les éditeurs, les metteurs en scène, les acteurs pour le théâtre, les traducteurs pour les traductions, sont toujours problématiques, compliquées, conflictuelles. Hein. Et donne lieu, on le voit maintenant avec la publication de la correspondance, qui est quand même tardive,
oui.
Ça a commencé en 95 quand même, le premier tome, hein. Et on n'a pas tout. Enfin, on voit dans cette correspondance qu'elle a passé des heures et des heures à écrire des lettres, contrôlant sa correspondance, contrôlant ses éditions, contrôlant son théâtre, etc. Alors pour la traduction, on a en particulier publié en 95 une lettre qu'elle avait écrite à sa une de ses traductrices italiennes, avec laquelle elle avait bon rapport, qui s'appelle Lidia Storoni Mazzolani, qui est morte cette année, l'an dernier.
C'est-à-dire en 2006
En 2006. Et elle lui écrit à propos de la traduction par une autre traductrice italienne. Et là, il y a des phrases terribles. Cette jeune traductrice est en train de traduire Le coup de grâce et Alexis. On est en 1962, même, ça a été publié en 95, mais là, elle écrit en 62, personne ne connaît cette lettre à l'époque. Et je peux lire quelques lignes des extraits de cette lettre à la traductrice la plus connue, à propos de la jeune traductrice qui traduisait Coup de grâce. Voici ce qu'elle dit. « J'ai reçu depuis le volume, par l'entremise de mes éditeurs français, et pour autant que mon jugement vaut quelque chose, je suis entièrement de votre opinion. Madame Spaziani, la jeune personne en question, est une traductrice très douée, c'est aussi, dit-on, une intéressante poétesse, mais les rapports avec elle sont difficiles. Lettres, envois de documents et de livres demandés par elle, laissés sans réponse. Puis, je crois, grand mécontentement de sa part, parce que j'élevais des objections au projet d'une préface écrite par elle et se surajoutant aux miennes. De plus, j'ai aussi des ennuis sérieux avec une traduction allemande d'Alexis. L'excuse de Maria Luisa Spaziani, qui, comme vous le devinez, est piémontaise, et qu'elle a eu, à ce qu'il semble, dans ces dernières années une vie privée des plus difficiles et sa santé est mauvaise. Mais il est inquiétant d'être ainsi sans contact avec sa traductrice et de sentir, pour ainsi dire, l'ouvrage vous échapper des mains. Donc ces quelques lignes sont terribles. Dans un style très ampoulé et très correct, elle fait montre donc d'une fausse humilité, hein, puisqu'elle dit pour autant que mon jugement vaut quelque chose, donc oui, le contraire à qu'elle pense.
Une grande ironie. Hein,
Son impatience, puisqu'elle dit qu'elle n'a pas eu les documents, sont restés sans réponse et demande. Hein. Elle demande à avoir le droit exclusif à commenter ses textes. La préface sera surajoute aux miennes. Hein. Et ensuite, le petit coup de patte qui est une piémontaise.
Oui, alors qu'est-ce que ça signifie ça,
une sorte de mépris piémontais n'est pas sérieux à ses yeux.
C'est ça que ça signifie.
Qui, comme vous le devinez, est piémontaise. Donc il y a en quelques lignes, trois ou quatre coups de pied.
C'est pas très élégant, ça.
Pas très élégant, mais enfin, c'est très élégamment dit. Donc ça prouve qu'elle elle a des rapports compliqués avec ses traducteurs, et elle veut tout contrôler. Hein. Et elle a dit, par exemple, à propos des traductions de ses propres ouvrages dans d'autres langues, elle a dit « Vous contrôlez tous les textes ?»« Ah non, pas du tout, je suis les choses jusqu'au bout autant que je le puis, mais cela dépend évidemment de la langue dans laquelle on les traduit. Quand c'est de l'italien, de l'espagnol ou de l'anglais, je m'affole à l'idée de la moindre erreur. Quand c'est une traduction en japonais ou en hébreu, je dois faire confiance. » Donc on sent qu'elle n'est pas contente de faire confiance. Elle est sceptique. Elle est sceptique. Et c'est vrai qu'elle va essayer toujours de contrôler en embêtant vraiment les traducteurs, parfois à juste titre, parce qu'elle connaissait les langues quand même, puis elle connaissait son texte. Mais là, elle a une conception...
Mais elle a un a priori méfiant.
Elle a un a priori méfiant, alors qu'elle, quand elle traduit, elle se donne tous les pouvoirs.
Oui.
Hein? Elle, quand elle traduit les autres, hein, on a vu qu'on en avait traduit beaucoup, elle se donne tous les pouvoirs au nom de la subjectivité, de la créativité, de ce qu'elle appelle la lisibilité, enfin bon, le grand débat des traducteurs. Elle n'est pas du tout dans une école de traduction littérale, elle est dans une école de traduction d'écrivain, de création. C'est pour ça qu'elle a accepté Cortázar, qui prend des libertés énormes avec Mémoire d'Adrien. Mais elle a accepté parce que c'est un autre écrivain qui a le droit de le faire. Mais par contre, elle se donne aussi tous les droits, mais elle ne le donne pas à ses traducteurs. Donc là, on a au fond on complète ainsi le portrait de Yourcenar, parce qu'à travers ses rapports avec les traductions et les traducteurs, on a un petit peu le résumé de sa personnalité pointilleuse, travailleuse. Quand on lit la correspondance, on s'aperçoit, et on n'a pas toutes les lettres, qu'elle écrivait parfois 7-8 lettres de 5-6 pages par jour à l'éditeur, à la traductrice, et non pas des lettres banales, mais des lettres qui étaient des documents avec des réflexions, des mises au point, l'aide dont elle gardait les doubles, dont Grace Frick faisait une fiche chaque fois pour garder ça en mémoire, enfin bon, depuis le début. Hein, bon. Donc là, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à la personnalité de Yourcenar, qui est quelqu'un de très indépendant et de très orgueilleux, finalement, et de très exigeant, aussi bien pour elle-même que pour les autres. Dans une lettre d'ailleurs à un jeune chercheur, elle a cette phrase magnifique, elle lui dit « Excusez-moi, je vous ai lu en retard, j'ai mis 6 mois à vous répondre, je suis accablé de travail, mais maintenant je vais vous lire avec la même rigueur implacable que je me lis moi-même. » Donc je m'imagine la réaction du pauvre chercheur qui doit avoir 22-23 ans quand il reçoit cette lettre. Il était terrifié, certainement, alors que c'était une phrase qui se voulait aimable.
On n'a pas parlé de ces traductions de Mishima.
Oh ben Mishima, là aussi, on est en plein dans la traduction d'osmose, d'amour, ce qu'elle appelle l'empathie. Hein. Mishima, la vision du vide. Mishima, elle a même traduit des noms, hein, des noms modernes en 1984. Donc le Japon l'a fasciné. La culture, la civilisation japonaise l'ont fasciné. Donc Mishima, elle a écrit un livre sur lui, d'ailleurs, elle l'a traduit. Là, vraiment, il y avait cette espèce de fascination pour les hommes, bon, d'abord les homosexuels, hein, c'est évident. Hein. Elle n'a aimé que des homosexuels, pratiquement. Hein. Et puis le personnage, la mort, le suicide qui l'a fasciné, quand même. Il y a beaucoup de thèmes du suicide dans son œuvre, hein, Antinous. Bon. Donc là, elle a trouvé dans la traduction, une sorte de manifestation de son hommage à Mishima et de thèmes communs. Donc finalement, même depuis le début, on peut dire qu'elle traduit des gens qui parlent de ce qu'elle aime, qui pose des problèmes qu'elle aime poser et qui sont une deuxième voix, quoi, une autre oui. voix que sa propre voix. Et ça, c'est intéressant parce que même quand c'est alimentaire, mais de moins en moins, parce que quand ça n'est plus alimentaire, quand tu as choisi Mishima, ça n'est pas alimentaire. Bien quand tu as choisi Les Nous, ça n'est pas alimentaire. Quand tu as choisi les poèmes d'Amrita Pritam, qui est une jeune poétesse indienne, là, c'est le goût hein, ou le désir de faire connaître. Donc là, il y a quelque chose de très significatif quand même. Et Mishima, c'est quelqu'un qui la fascine, hein, de même que Borges, par exemple, l'a fascinée. Elle est même restée, alors qu'elle était une écrivaine très connue, reconnue, académicienne, elle est restée parfois jeune, intellectuelle. Quand elle va rencontrer Borges, par exemple, elle est très connue, elle est âgée, Borges l'est encore plus qu'elle, et elle se comporte presque comme une petite étudiante qui va avoir le modèle, le maître. Donc, elle n'a pas traduit Borges, mais on peut dire qu'il y a une sorte d'hommage quand même dans les traductions. Oui. Dommage oui. à des gens qu'elle aime.
Alors, en préambule, j'ai informé nos auditeurs que vous êtes professeur émérite, Jean-Pierre Castellani, professeur émérite de littérature, mais je n'ai pas dit que vous êtes aussi l'un des cofondateurs de la Société internationale des études yourcenariennes. Une société très active, n'est-ce pas ?
C'est une société très active, c'est une aventure magnifique, par le hasard, là oui. C'est une société savante, comme on dit maintenant en France. Mmh. C'est-à-dire que sous ce mot savante se dissimule la très grande liberté. Hein. C'est une société donc qu'on appelle loi 1901 en France, donc qui est en dehors de toutes les intrigues, les poids et les contraintes administratives, éditoriales, universitaires. Mmh. Bon, en un mot, on fait ce qu'on veut. on est autofinancé. Et on l'a créé, quand je dis on, je donnerai rapidement la genèse, hein, c'est quelque chose de miraculeux. Hein. On l'a créé en avril 1987, donc on va fêter en novembre 1987, l'an prochain, 2007,
en
pardon,
2007.
On va fêter les 20 ans de cette association. Donc ça s'est créé par une sorte de réunion, par le hasard, dans les années 80, après l'élection à l'Académie française, peut-être que ça a été le dernier coup de fouet, mais on était tous dessus depuis longtemps. On s'est retrouvés, une trentaine de fous, de passionnés de Yourcenar, dans l'Europe entière. D'abord en Espagne, en 1984. Elena Real, notre collègue espagnole, a fait un premier colloque mondial international à Valence, en Espagne. Puis nous, avec mon collègue Levers à Tours, on a fait un deuxième colloque en mai 1985. Et puis ça a continué. Et puis là, à force de se rencontrer, on s'est donc retrouvé des Français. Cet adjoint à nous, Rémi Poignot, qui était un jeune professeur de latin, qui avait fait une thèse sur l'Antiquité et qui a donc dit on me conseille de créer une association. Et puis il y avait le Belge Maurice Delcroix, puis il y avait les Italiens Carmena Biondi, puis il y avait l'Espagnol Elena Real, puis il y avait l'Argentine Blanca Lancimia. Donc on s'est retrouvé plusieurs nationalités, des passionnés. Dans nos exposés et dans nos causeries, nos conférences, on trouvait partout des lecteurs passionnés de Yourcenar. Donc on a voulu créer en 87, avec l'approbation de Yourcenar, qui nous a approuvé, qui nous a répondu une phrase magnifique, de toute façon, la réponse à vos savantes interrogations est dans mon œuvre. Donc elle nous a dit, allez-y, mais fichez-moi la paix, quoi, en amour. Ouais. Mais on l'a créé quand même, avec son approbation, hein, et on a créé donc une structure qui n'est pas éditoriale, Gallimard qui ont le contrôle total de l'œuvre et le Trust Yourcenar aux États-Unis, donc on ne publie pas d'inédit, hein, mais on publie donc une fois par an un bulletin, qui est un vrai livre, où toute personne qui a envie d'écrire sur Yourcenar peut collaborer. Ça passe par un comité scientifique, bien sûr, un comité de lecture, mais enfin, on publie tous les ans un bulletin. On est au numéro 27 en décembre dernier, pas mal, en 20 ans quand même. Mmh. Et puis, on est organisateur ou co-organisateur où on parraine des colloques, des rencontres. On a un centre de documentation qui est maintenant à l'université de Clermont-Ferrand. Là se trouve le collègue Rémi Poignot qui préside la société. On a un bureau international, on a des correspondants, je vous donne la liste pour vous donner le côté universel et cosmopolite, par ordre alphabétique pour ne froisser personne, en Amérique latine, Canada, Chypre, Espagne, États-Unis, Irlande, Italie, Japon, Royaume-Uni. Bon, bah oui, ça couvre à peu près le monde entier, à peu près 250 adhérents, c'est pas mal quand même. On a un site internet, yourcenaria.org. www.radiocanada.org.
On le mettra sur la page de
Les hommes politiques maintenant donnent leur site à la télévision, on peut bien donner l'autre.
Oui, bien
sûr. Canal Académie.
Vous avez raison.
Oui, c'est un beau site qui a été conçu par une collègue italienne, Lorena Pordevic, et qui commence à fonctionner. Et qui donc est chargé non pas d'avoir un intérêt commercial, mais de diffuser l'œuvre, des critiques de l'œuvre, des analyses de l'œuvre, de renforcer les liens entre les passionnés de Yourcenar, de mettre en contact. Par exemple, grâce à ce réseau, il arrive très couramment, une fois tous les 2-3 mois, qu'un jeune chercheur lance un appel au secours en disant « je ne retrouve pas la citation où Yourcenar dit, je caricature, mais enfin, le ciel est bleu, par exemple. » Et ça, c'est envoyé à tous les adhérents. Et pratiquement dans la matinée, vous avez un Belge ou un Italien qui dit « Le ciel est bleu, c'est page 22 dans l'édition La Pléiade, dans Un homme obscur. » Voilà. Ouais. Donc ça, c'est magnifique. Et puis beaucoup de jeunes chercheurs, bon, il y avait un noyau de gens chevronnés, puis maintenant, depuis 20 ans, des jeunes se sont mêlés à nous. Donc c'est vraiment une aventure qui, je crois, a renforcé l'audience quand même de scientifiques, en tout cas, sans être prétentieux, de Yourcenar dans le monde entier, puisque c'est vraiment international.
Alors justement, l'œuvre de Yourcenar a-t-elle un grand lectorat dans le monde en tant que membre actif de la Société internationale des études yourcenariennes, vous êtes au fait de la réception de l'œuvre dans le monde de Yourcenar. C'est une œuvre, semble-t-il, qui suscite une grande passion, justement, vous venez d'en parler, et beaucoup de thèses.
Énormément. Moi, d'un point de vue anecdotique personnel, je m'en suis rendu compte dès les années 78, parce que moi j'avais commencé à donner des conférences sur Yourcenar avant l'élection à l'Académie française, qui a quand même été en 80, et la réception en 81, quelque chose de capital pour son aura universelle, bien sûr, c'est la première femme en plus, donc ça a eu un écho au monde entier. Mais avant, je m'étais rendu compte que quand on parlait de Yourcenar en Italie, en Espagne, en Roumanie, en Argentine, il y avait toujours beaucoup de monde. Il y avait un public très jeune ou âgé, mais passionné, qu'on n'a pas avec Corneille ou même Malraux, qu'on avait Camus peut-être. Oui. Et là, il y avait un réseau de gens qui avaient tous des éditions de Yourcenar. Donc là, il y avait déjà avant.
Donc il y a aussi un lectorat populaire.
Il y a un lectorat, populaire, un lectorat.
Enfin, je veux dire, en dehors de l'université.
Qu'il avait lu avant les prix. C'est sûr que Mémoire d'Adrien a été...
Il n'y a pas que les étudiants en littérature.
Non. Donc c'est lu dans le monde entier. Les tirages sont énormes, bien entendu. La diffusion est énorme. C'est traduit dans le monde entier.
Et en combien de langues à peu près elle est traduite, on le sait?
Pratiquement toutes les langues, je crois. Oui. Il faudrait faire le tour. Quand on regarde dans la Pléiade, l'édition de la Pléiade, on donne par œuvre les traductions année par année, en roumain, en slovaque, en russe, en chinois, en japonais, on a pratiquement toutes les langues. Peut-être que certaines nous échappent, je n'ai pas fait le compte, mais quand même, elle est traduite pratiquement dans la plupart, dans même ce qu'on appelle, je n'aime pas l'expression, des petites langues. D'ailleurs, quand elle meurt en 87, en laissant le manuscrit inachevé de Quoi l'éternité, l'édition Gallimard publie 10 mois après, en octobre 87, Quoi l'éternité, qui est un immense succès éditorial tout de suite, en France. Donc elle vend régulièrement, elle est lue. Elle n'est pas très étudiée dans les universités parce qu'elle n'a pas encore eu le privilège dans les programmes des agrégations. Elle a été mise en même temps que d'autres écrivains, la création de lettres modernes. Elle n'est pas encore reconnue peut-être à fond, même si elle apparaît maintenant dans les programmes scolaires. Mais elle a quand même un énorme succès. Et il y a un document qui le prouve bien, c'est une collègue italienne, franco-italienne, Françoise Bonali, a publié un répertoire, un livre qui s'appelle Réception de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, un livre de 200 pages, que nous actualisons tous les ans dans notre bulletin, parce qu'il est déjà, il a déjà 3 ans. Et c'est une sorte de répertoire, qui est un travail énorme, et qui, quand on le regarde, permet d'avoir la liste complète à la fin, un travail énorme. Une bibliographie chronologique avec la liste des entretiens, des portraits, des diffusions d'intervalles à la radio, à la télévision, les études en volume, les numéros spéciaux, les actes, les articles, les dossiers de presse, les spectacles, les manifestations, les adaptations cinématographiques, les expositions, les thèses, bien entendu, il y en a énormément, et plus à l'étranger qu'en France. Moi, je fais partie plus de jurys plus nombreux sur Yourcenar en Italie, en Espagne ou ailleurs qu'en France. Donc, il y a énormément de travail scientifique, universitaire, par de jeunes qui travaillent dans tous les pays d'Europe sur l'œuvre de Yourcenar. Tous les aspects sont maintenant travaillés. Comme c'est une œuvre immense, complexe, dont on découvre en plus des textes avec les correspondances, et peut-être un jour des inédits, quand les fameux 50 ans seront tombés, 60 ans même, je crois, maintenant. Donc, il y a du travail, même si en 20 ans, je crois, on a quand même pas mal labouré le terrain. Mm-hmm. Il reste encore des sujets. Une preuve aussi de son audience, hein, de son intérêt, c'est les trois biographies de Yourcenar, ce qui est rare quand même en 90, 95, 2002, 98. Trois biographies, hein, celle de Josiane Savigno, oui. Trois femmes,
la plus connue, significatives. Oui,
Savigno, enfin, la plus connue, Marguerite Yourcenar, L'invention d'une vie, 90. Puis il y a une Française qui travaille aux États-Unis, Michèle Sard, qui a publié une biographie très, très personnelle qui s'appelle Vous, Marguerite Yourcenar, La passion et ses masques. S'adresse directement à Yourcenar, de la partie grecque de sa vie. Et puis en 98, il y a une Belge, Michèle Goslar, qui a publié une biographie très personnelle aussi, très subjective, qui s'intitule « Biographie, qu'il eût été fade d'être heureux », qui est une citation. Donc les trois textes sont trois femmes, ça n'est pas neutre, et très personnel, aucun ne copie l'autre. Là, vraiment, il y a la preuve que de l'intérêt. Les trois se sont pas mal vendues, je crois, enfin surtout celle de Josiane Savigno, qui a apporté des éléments importants pour un travail de documentation, enfin bon... et qui dévoile un certain nombre de secrets, parce que Yourcenar parle beaucoup d'elle-même, mais ne donne pas les détails quand même. Et là, on entre un petit peu dans les secrets d'une vie apparemment maîtrisée, mais qui était quand même brûlée de passion et d'aventure.
Nous voici, Jean-Pierre Castellani, au terme de cette émission. Vous voulez ajouter quelque chose, peut-être ?
Oui, je pense qu'au terme de ce cycle d'émissions, sur le thème de Marguerite Yourcenar, citoyenne du monde, je pense qu'on peut dire que ce titre se justifie pleinement par rapport à tout ce qu'elle a pu dire et faire. Elle se sentait vraiment citoyenne du monde et non pas exilée. Précisément, comme je disais au début de notre entretien, elle ne s'est jamais sentie exilée. Elle s'est toujours sentie aux États-Unis comme quelque part, comme elle dit. Il faut bien être quelque part. Donc elle a plutôt préféré le terme de prison, et c'est le titre d'une de ses œuvres, qui s'appelle « Le tour de la prison », le monde comme une prison dont il faut faire le tour par des voyages permanents, curieux, et passer les frontières. Donc, aux États-Unis, elle dit qu'elle a trouvé refuge. « Je suis restée aux États-Unis, il faut bien être quelque part. J'ai vécu dans tant de pays que j'ai peine à me croire par moments d'une nationalité quelconque. » Donc, elle est vraiment dans la lignée, enfin la tradition des citoyens du monde, qui ne sont pas citoyens d'un pays, mais citoyens d'une culture, d'une littérature, les citoyens d'une littérature, de plusieurs cultures. Elle est au fond, bien qu'académicienne française, elle est marginale, elle est errante, elle est nomade. C'est une nomade, même si très souvent elle est restée enfermée en travaillant dans sa maison. C'est une nomade et elle n'a cessé de repartir sur les routes des cultures universelles. Et elle le dit bien à Mathieu Gallet. Elle dit, dans ses fameux entretiens, des yeux ouverts, j'ai plusieurs cultures comme j'ai plusieurs pays, j'appartiens à tous. Et elle ajoute, j'ai plusieurs religions comme j'ai plusieurs patries, si bien qu'en un sens, je n'appartiens peut-être à aucune. Donc toujours cette volonté, comme pour la traduction d'ailleurs, de n'appartenir à personne, de ne dépendre de personne. Elle n'est pas patriote, elle n'est pas ni américaine, ni française. Elle se sent citoyenne du monde. Et le monde, elle le considère comme une prison dont il faut faire le tour en essayant de la comprendre, de l'améliorer, de lui parler, d'envoyer des messages de lucidité essentiellement. Mais elle est vraiment citoyenne du monde au sens de ne jamais être attachée à une terre ou à même une langue. Elle est donc vraiment citoyenne du monde.
En 1929, alors âgée de 26 ans, Marguerite Yourcenar écrivait « Nous n'avons qu'une seule vie. Même si j'obtenais la fortune, même si j'atteignais la gloire, j'éprouverais sûrement le sentiment d'avoir perdu la mienne si je cessais un seul jour de contempler l'univers. » Depuis 20 ans maintenant, Marguerite Yourcenar a cessé de contempler cet univers. Pour nous, qui n'avons peut-être ni la gloire ni la fortune, mais qui sommes vivants, il y a quelque part dans cet univers les livres de Marguerite Yourcenar que nous pouvons lire pour notre bonheur. Nous voici, Jean-Pierre Castellani, au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Je rappelle que les références de vos ouvrages et articles sont inscrits sur la page de l'émission. Nous achevons donc ce cycle Marguerite Yourcenar, une académicienne citoyenne du monde. 4 émissions réalisées par Lucien Pénaud et proposées et présentées par Lucrèce Lachenardière pour Canal Académie.
Of eternity, I am Uzziah the King.